Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir plusieurs chevaliers Jedi de l'analyse stratégique pour une émission consacrée donc à Star Wars et à la guerre, et à la guerre dans Star Wars. Alors tout d'abord Tony Morin, capitaine Tony Morin, chef de la section études et veille du centre d'études rayonnement et partenariat de l'armée de l'air, doctorant en sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et auteur il y a quelques années, en 2015, d'un excellent article consacré à Star Wars dans le magazine d'ailleurs partenaire du podcast, DSI, qui est intitulé « La chute de l'Empire galactique entre erreurs tactiques et biais cognitifs ». Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Ensuite, une voix déjà connue des auditeurs du podcast, Olivier Schmidt, professeur de sciences politiques et directeur du Center for War Studies de l'Université du Sud-Danemark, qui était venu nous parler déjà il y a quelques mois à la fois des alliances militaires et de l'innovation dans les armées. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et enfin, une voix qui fait son apparition dans le Collimateur, mais que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà, c'est Wael, des copains du podcast Damoclès, dont je vous parle régulièrement et qu'on a donc la joie d'accueillir pour l'un des crossovers les plus ambitieux de ces dernières années. Donc bonjour Wael.
Bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans ton superbe podcast.
Alors, je vais dire tout de suite que cette émission vient d'une idée qui m'a été suggérée sur Twitter, je crois que c'était Folle Bavard qui m'avait suggéré l'idée sur Twitter, à l'occasion de la sortie évidemment de l'épisode 9 de la saga, intitulé L'Ascension de Skywalker, qui est encore en salle. Et l'idée, c'est donc de faire quelque chose un peu dans l'idée de ce qu'on avait déjà fait il y a quelques mois sur Game of Thrones avec Michel Goya et Jean Michelin, à savoir donc de prendre au sérieux une œuvre de fiction avec l'idée qu'elle dit vraiment quelque chose du réel et en l'occurrence de la guerre. Alors je vais insister un peu là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose là-dessous que je voudrais dire. C'est d'abord le fait est que Star Wars parle essentiellement de la guerre sous toutes ses formes, puisque c'est évidemment dans le titre la guerre des étoiles, même si on peut souligner que c'est probablement la pire traduction de tout le XXe siècle, puisque en français Star Wars ce serait plutôt les guerres de l'étoile ou les guerres galactiques, ce qui certes est nettement plus laid, mais enfin, le fait est qu'il y a quand même une très grande pluralité des formes de guerre et de conflit dans Star Wars, et que c'est cette pluralité qui est passionnante. Et surtout, Star Wars s'inspire de guerre historique, et même globalement de faits et de situations historiques. Alors ça va de l'Empire romain à la chevalerie médiévale et aux spiritualités orientales, et Star Wars les transpose dans un univers fantastique SF, et cette transposition nous permet d'isoler et donc de réfléchir sur certaines dynamiques du fait militaire et guerrier, comme on va le voir. Mais aussi et surtout, ce qui est précieux avec Star Wars, c'est que c'est un référentiel culturel qui est à peu près universellement partagé. Ce qui permet de parler de guerre avec beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas du tout, ou en tout cas pas du tout directement. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui sont passés à côté ou qui détestent Star Wars, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup, et même ceux qui n'ont pas vu les films savent globalement de quoi il est question, puisque ça a pénétré évidemment toute la culture populaire. Un exemple typique, c'est notamment la chanson d'Ayam sur l'Empire du Côté Obscur. Je suis désolé, mais c'est les références de ma génération. Ça me paraît entièrement représentatif de ça. Donc, un des très grands intérêts de tout ça, c'est qu'on peut parler de guerre à peu près avec tout le monde, en parlant et en partant de Star Wars. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'investir et de réfléchir sur cet univers, en pensant à ce que celui-ci dit de la guerre. Alors, j'ai déjà été très long, et promis, on va entrer dans le vif du sujet, mais je vais quand même vous expliquer un peu comment l'émission va fonctionner. Précisément parce que c'est un univers extrêmement riche, on va surtout se concentrer sur les films, donc les épisodes 1 à 9. Alors je rappelle qu'on compte en partant de la prélogie, donc le tout premier c'est la menace fantôme avec Anakin Skywalker tout petit, en allant donc jusqu'à l'ascension de Skywalker, l'épisode 9, avec en plus les deux films un peu extraits, un peu hors liste, que sont Solo et Rogue One, qui sont entre les épisodes 3 et 4. Même si j'imagine bien que certains d'entre vous feront appel à leur érudition sur ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars, avec donc les livres, avec la série The Mandalorian, ce Mandalorian, pardon, avec le dessin animé Clone Wars, etc., etc., etc. Mais je vais essayer qu'on reste toujours clair et qu'on explique bien distinctement, sans partir dans une discussion trop geek et trop hermétique. Et parce que c'est très riche, on peut pas faire une émission encyclopédique, on pourrait en faire des heures et des heures, ça a déjà été souvent fait, notamment dans des podcasts en anglais. Et notamment, on peut pas décrypter toutes les multiples références et représentations de la guerre qu'on trouve dans la série, donc on va procéder en deux temps. D'abord, j'ai demandé à chacun de choisir quelques points précis concernant la guerre dans l'univers Star Wars qu'il veut mettre en avant. Alors ça peut être des détails ou des choses plus importantes, mais l'idée c'est de souligner certains points représentés dans Star Wars et de voir comment ils peuvent, selon vous, nous donner à réfléchir sur le fait guerrier. Et ensuite, on aura une deuxième partie plus consacrée à la stratégie dans Star Wars, parce que les films ont quand même un propos de fond qui couvre et qui unifie un peu tout cet univers, c'est que c'est fondamentalement une analyse d'un conflit asymétrique, donc entre une superpuissance, l'Empire, et une résistance, donc avec des dimensions de dissuasion, de stratégie de la terreur, de guérilla contre guérilla, etc., etc., etc. Donc sur ces points précis que vous avez choisis pour nous donner à réfléchir sur comment Star Wars nous fait penser à la guerre, on va peut-être commencer par Olivier Schmid. Alors Olivier, je crois que vous avez choisi ce qui est aussi une de vos spécialités dans la vraie vie, pas que Star Wars soit pas la vraie vie, mais un peu quand même, qui est, je crois, l'innovation technologique.
Oui, absolument. Il y a un point dont je voudrais discuter, qui est la représentation et le rôle de la technologie dans Star Wars. Et pourquoi c'est intéressant ? Déjà parce que Star Wars est souvent perçu comme une œuvre de science-fiction. On pourrait dire que c'est un western dans l'espace, mais c'est perçu comme une œuvre de science-fiction, donc il y a toujours un imaginaire de la technologie. Il faut que ce soit futuriste, même si ça se passe il y a bien bien longtemps, il faut que ce soit vu comme futuriste.
Ça se passe bien, il y a bien bien longtemps et dans une galaxie très très lointaine.
Voilà, mais pour l'instant on va faire de la technologie avant de faire de la géographie. Et donc voilà, il y a la notion de... quel est le rôle de la technologie dans une œuvre de science-fiction ? Le deuxième aspect que moi je trouve intéressant, c'est évidemment que la technologie n'est jamais neutre. L'artefact technologique dit toujours quelque chose des valeurs d'une société, de la manière dont il a été créé, il a été conçu, dit quelque chose des normes sociales dominantes. Donc partant de là, si on considère que la technologie n'est pas quelque chose de neutre, mais qu'elle dit quelque chose d'une société, qu'est-ce que la technologie et la manière dont elle est représentée dans Star Wars nous dit de cette société et de sa conception de la guerre ? La première chose, c'est que les technologies dans Star Wars qui sont les plus avancées sont systématiquement des technologies létales. Donc on a une technologie qui est censée être futuriste où les mères meurent encore en couche, et quel que soit le statut social, puisque c'est même une sénatrice qui littéralement meurt en couche. Par contre, dès qu'il s'agit de technologie létale, c'est immédiatement avancé et sophistiqué. Donc ça, c'est un premier point, c'est que quelque part, la manière dont la technologie est perçue, elle est toujours belligène et belliciste. Donc ça dit quelque chose d'une société qui est en conflit structurellement, et ça dit quelque chose de la République, qui est censée, dans l'univers de Star Wars, au moment où se passent les films, exister depuis entre 800 et 1000 ans, qui finalement, clairement, n'a pas réussi à imposer un ordre sur la société qu'elle prétend diriger.
C'est vrai que si on revoit juste l'épisode 3, c'est très étonnant, parce qu'il y a un hôpital hyper sophistiqué avec des robots qui volent dans tous les sens pour assister une femme en couche, mais quand même, elle n'est pas capable de donner naissance à des jumeaux sans mourir.
Exactement. Et c'est représenté pour moi dans l'opposition, en tout cas le partenariat entre C-3PO et R2-D2, parce que si on y pense...
C-3PO et R2-D2, rappelons qu'ils sont les deux droïdes qui accompagnent notamment toute la deuxième trilogie.
Exactement. Et C-3PO, si on y pense, il est formidable comme outil. C'est un droïde qui est capable de parler l'intégralité des langues connues de la galaxie. En termes d'outils diplomatiques, littéralement, il permet d'atterrir n'importe où et de créer des contacts. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le personnage comique. C'est celui qui est agaçant, qui est désagréable. R2-D2, en l'occurrence, qui est le droïde qu'on aime bien parce qu'il est rigolo, il est attachant, c'est le couteau suisse le plus utile de la galaxie. Il sert à tout. Il sert à faire du hacking, il sert à faire de la direction et du guidage pour les pilotes de chasse dans l'univers de Star Wars, et il a été conçu comme outil guerrier. Donc je trouve que c'est, cette opposition entre quelle est la technologie qu'on valorise, c'est celle qui va être guerrière, et en soi intéressante, elle nous dit quelque chose de cette société.
Well, vous voulez rebondir ?
Oui, je rejoins pas mal des points soulevés par le professeur Schmitt. Juste une petite nuance dans le fait que la technologie dans Star Wars n'est pensée que comme un outil guerrier. Par exemple, en termes de prothèses médicales et de soins médicaux, il y a quand même de très très importantes avancées en pointe dans cet univers. On pourrait citer à la fin de l'épisode 3, le pauvre Anakin Skywalker qui, par un malheureux concours de circonstances, se fait un petit peu découper en rondelles, puis un peu carbonisé, et pourtant... Vu qu'il avait la niaque, il a réussi à survivre, et grâce à
tout un... Comme quoi, quand on veut, on peut.
Hein. Voilà, quand on veut, on peut, et je reviendrai là-dessus juste après. Il y a quand même, d'un point de vue médical, un niveau technologique quand même assez important par rapport aux prothèses, etc., etc. Autre chose, je pense que la mort de Padmé Amidala dans l'épisode 3, toujours, n'est pas trop... une question de déficit de soins, mais plus mort par chagrin d'amour.
Ben on va pas commencer à nuancer nos hypothèses outrancières, sinon cette émission part très mal. Olivier Schmitt.
Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est en quoi est-ce qu'on transforme Anakin ? On la transforme en larme au service de l'empereur. Enfin, moi, je trouve que c'est assez justement révélateur.
De la même manière que Luke Skywalker aussi a une main qui se fait reconstruire, mais pourquoi est-ce qu'il doit se faire reconstruire la main ? Parce qu'il faut que cette main puisse tenir le sabre laser.
Exactement.
Olivier Schmitt ?
Il y a un autre point que moi je trouve intéressant dans la technologie dans Star Wars, c'est qu'en fait il y a une espèce de stase technologique. Il y a très peu de progrès technologique dans l'univers. Enfin, finalement, les principales techniques sont connues. Ils ont tous des blasters. Ils ont tous la capacité de se déplacer dans l'espace, dans des vaisseaux spatiaux. Et si on regarde les technologies...
Vous voulez dire entre la prélogie, donc entre la première trilogie et les derniers épisodes, c'est-à-dire, bon, il se passe, c'est quoi ? C'est une sorte de 30-40 ans.
Oui, mais... c'est
vrai. Voilà. C'est vrai que la technologie...
C'est incrémental, mais il n'y a pas de vraies ruptures majeures. Et même si on regarde dans l'univers étendu, même 1000 ans auparavant, les technologies sont relativement similaires. Il y a déjà des blasters, ils peuvent déjà se déplacer de planète en planète. Donc il y a une forme de stase technologique dans Star Wars qui est assez intéressante. Et quelle est la conséquence de cette stase technologique ? C'est qu'il y a une forme de diffusion de la technologie. Comme je disais tout à l'heure, si on regarde la rébellion contre l'Empire, ils ont globalement des matériels à peu près équivalents en termes de qualité. Et c'est une rébellion qui est quand même capable d'avoir une flotte de chasse capable d'attaquer un empire constitué. Et si on essaie de rattacher ça, quitte à avoir des hypothèses outrancières, mais si on essaie de rattacher ça à la littérature en études stratégiques aujourd'hui, c'est ce que notre collègue et ami Joseph Enrotin appellerait une techno-guérilla. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu une diffusion des technologies facilement accessibles qui, au final... permet d'équilibrer relativement le rapport de force. Sans innovation technologique, finalement, le rapport de force s'équilibre, y compris en faveur des guérillas.
Oui, c'est-à-dire que l'Empire, qui a beaucoup de moyens pour développer des technologies, n'a au fond pas tellement d'avantages comparatifs par rapport à la guérilla, qui récupère toutes les armes au rebut, littéralement, de l'Empire, et vu que ces armes évoluent peu, ça égalise un peu le champ de bataille. Well.
Juste une chose, il y a aussi une stagnation qui est aussi culturelle. Le sabre laser, le symbole Jedi, communément, il est admis que c'est une arme qui est obsolète dans l'univers de Star Wars, mais il la conserve comme un symbole de pouvoir, comme dans notre histoire médiévale.
Tony Morin ?
Oui, je reviens sur cette notion de technologie, qu'est-ce que la technologie dit d'une société. En fait, quand on regarde un peu l'univers de Star Wars, c'est que Star Wars, c'est... même si c'est quelque chose qui a été créé pour les enfants à la base, Star Wars, c'est quand même un univers violent quand on y regarde de plus près. C'est-à-dire qu'il y a des guerres assez fréquentes. Alors, on ne sait pas vraiment quelle était la situation conflictuelle avant la prélogie, donc avant l'épisode 1, 2, 3, etc. Mais ça reste un univers violent. Ça reste un univers où, on le voit dans l'épisode 4, où c'est globalement le Far West et où il n'y a pas l'air d'y avoir véritablement d'état de droit. C'est un univers où l'esclavage existe, ce qui est quand même une pratique relativement archaïque. Donc Star Wars est un univers violent. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais souligner, ça concerne l'asymétrie. Est-ce qu'il y a vraiment une asymétrie, finalement, entre l'Empire et la Rébellion ? Pas vraiment. Ils ont des matériels d'un niveau relativement équivalent, même s'il y a des différences, et je pense qu'on reviendra là-dessus. Mais il n'y a pas non plus d'asymétrie dans les buts. Les deux recherchent la même chose. Les deux recherchent le contrôle de la galaxie.
Ouais, mais ça, on reviendra dessus. Après, on parlera de stratégie à plus grande échelle un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Mais puisque vous avez la parole, donc Capitaine Morin, gardez-la. Et je crois que vous, le premier point que vous vouliez soulever, c'était, c'est aussi un peu votre spécialité, chacun amène un peu de lui-même dans cette émission, puisque vous vouliez nous parler de combats spatiaux et aériens, et de la manière dont ils sont représentés dans Star Wars.
Oui, exactement. Alors, je vais aller assez vite hein, sur ce point, parce que j'imagine qu'on développera un peu après. Mais pour un peu sortir de cet univers de Star Wars, si on revient à la manière dont George Lucas est celui qui a créé cet univers-là, lorsqu'il crée cet univers, au moins dans la première phase, hein, dans les années 70, lui, il a deux conflits qui reviennent le plus souvent dans ses notes, hein, ce qui l'inspire au premier plan, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ça, il y a des indices partout sur cette pénétration de la Seconde Guerre mondiale dans la manière dont sont conçus les vaisseaux, dans la manière dont sont filmés aussi les vaisseaux. Et la deuxième, c'est qui se voit un petit peu moins, c'est la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que quand George Lucas commence à créer son univers, dès le début, il a en tête un empire puissant et technologique qui affronte une rébellion avec des moyens un petit peu plus rudimentaires. Donc déjà, sur ces deux aspects, on a ces deux conflits-là qui sont très présents. Mais la Seconde Guerre mondiale est vraiment, dans ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment, je pense, le conflit, en tout cas pour la trilogie, les épisodes 4, 5, 6, c'est vraiment le conflit le plus important. Et d'ailleurs, petite anecdote cette fois-ci, là encore, je me permets de sortir un petit peu de l'univers, de la diégèse de Star Wars. Petite anecdote de tournage, il faut savoir que dans la première version du film qui le montre à ses producteurs et à certains de ses collègues, les effets spéciaux ne sont pas finalisés. Et qu'est-ce qu'il fait ? À la place des scènes de bataille spatiale, il montre des images de documentaires de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le film Star Wars tel qu'on le connaît, sauf qu'à la place des batailles spatiales, ce sont des images de documentaires de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il donne comme consigne à ses équipes techniques chargées des effets spéciaux, il leur montre des images de documentaires de la Seconde Guerre mondiale, de combats aériens, en leur disant « voilà, je veux ça, mais avec des vaisseaux ». Donc ça, c'est le premier aspect, c'était l'importance de la Seconde Guerre mondiale.
Juste pour dire, en revoyant, parce qu'évidemment, j'ai jamais autant bossé pour un podcast que là, enfin, ça m'a jamais pris autant de temps, quoi. Et en le revoyant, ça m'a frappé à quel point l'univers de Star Wars, et l'univers vraiment des armes, c'est vraiment l'univers de l'aéronaval. C'est incroyable. J'avais jamais tilté à quel point le parallèle avec ce qui est de la marine, enfin je veux dire, j'ai revu il y a pas longtemps l'épisode 8. Enfin, déjà tous les vaisseaux, ça se pense en combinaison avec des chasseurs, donc ça renvoie évidemment aux porte-avions, mais même tous les grands vaisseaux, on les appelle des destroyers, on les appelle des cruisers, donc des croiseurs et des destroyers. Ils sont même allés dans l'épisode 8, je me souvenais pas du tout de ça. Toute la première scène de bataille, il s'agit de tuer un vaisseau qui s'appelle un dreadnought, c'est-à-dire c'est vraiment le cuirassé, c'est le premier cuirassé. Il y en a eu plusieurs des dreadnoughts au long de l'histoire navale, mais c'est à chaque fois toujours le gros navire imprenable. Donc ça m'a frappé à quel point effectivement on est dans ce milieu de technologique de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire c'est vraiment cet univers où l'aéronaval et où la combinaison mer-air prend le dessus. Well.
Juste un tout petit détail, mais pour illustrer que le diable se cache dans les détails sur ce sujet-là, de l'influence de la Seconde Guerre mondiale, ça tient même dans la couleur des lasers, si je me souviens bien, qui est une référence à la couleur des balles traçantes de l'Allemagne et des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Olivier Schmitt ?
Oui, juste sur le point, sur le parallèle avec la marine et l'aviation, je pense pour le coup que c'est pas nécessairement spécifique à Star Wars. Dans la littérature de science-fiction, notamment dans les space opéras, c'est assez souvent qu'il y a des parallèles justement avec la marine et l'aviation, et c'est assez rare au final les œuvres de science-fiction. On peut penser à Robert Heinlein dans Starship Troopers, enfin dans le roman, pas dans la manière dont le film a été fait, mais même si on pourrait parler du film. Mais c'est assez rare les œuvres de science-fiction qui se basent plus sur les troupes terrestres. C'est souvent l'aspiration maritime et aérienne.
Bah si je vais reprendre la parole là-dessus, simplement pour une raison très simple, qui est que dès qu'on parle d'espace, en fait, la seule équivalent avec l'espace, c'est la mer, puisque c'est le seul espace où on ne peut pas vivre en dehors de son vaisseau.
Exactement.
Tony Morin ?
Oui, non, pour continuer dans cette idée de parallèle, regardez les combats spatiaux, je veux dire, c'est des combats de la Seconde Guerre mondiale. Les lasers, en réalité, ce n'est pas des lasers, c'est comme disait Wael, c'est des balles traçantes. Regardez comment se configurent, comment se déroulent les grosses batailles de l'univers Star Wars, des films. Regardez la bataille qu'on voit au début de l'épisode 3, regardez la bataille qu'on voit à la fin de l'épisode 6. Ce sont des batailles aéronavales. Vous avez de deux côtés des vaisseaux relativement importants, desquels s'échappent, sortent des vaisseaux de taille plus réduite, qui s'affrontent dans des combats. Ces vaisseaux, d'ailleurs, regardez comment évoluent les flottes. Elles évoluent sur le même plan, elles évoluent sur le même axe. Et ça va même plus loin, puisque...
Qu'est-ce que vous entendez par sur le même axe ?
Eh bien, elles sont... alors, j'essaie de mimer avec mes mains, mais forcément,
c'est pas très radiogénique.
Mais elles sont sur une même ligne, au final. Elles sont sur un même plan horizontal. Il n'y a pas une flotte qui serait, disons, sur l'axe des X, et une autre flotte qui serait sur l'axe des Z, qui lui arriverait par au-dessus, par exemple.
Ouais.
Juste là-dessus, et c'est assez intéressant, dans la bataille de l'épisode 2 entre la Fédération du Commerce, ou l'épisode 3 entre la Fédération du Commerce et l'armée des clones nouvellement créée, c'est la bataille qui est au tout début, si je me souviens bien, avec le général Grievous, justement, ça jure un peu par rapport aux autres batailles d'univers Star Wars, parce qu'on a des vaisseaux qui sont dans différents plans. Et d'un point de vue de la perspective, c'est quelque chose qui change un peu et qu'on ne voit pas vraiment dans la dernière trilogie qui vient de sortir.
Eh bien, encore une fois, Wael, vous avez la parole, gardez-la et indiquez-nous donc quel est votre premier point. Et je crois que, enfin, décidément, chacun apporte ses obsessions. Vous, Wael, c'est d'abord le complexe militaro-industriel de l'Empire qui a retenu votre attention puisque vous êtes vendu au grand capital, comme chacun sait.
Tout à fait. Je suis un idiot utile du complexe militaro-industriel, que ce soit dans Star Wars ou dans la vraie vie, comme on dit. Je parle des choses que je connais à peu près. Ce qui m'intéresse, en fait, là, le point que je vais évoquer, c'est l'adéquation, en fait, du complexe militaro-industriel de l'Empire, qui est une immense machine, hein. Par exemple, Quad Drive Yards dans l'univers de Star Wars, c'est la plus grosse entreprise de l'univers de Star Wars. C'est un immense chantier spatial.
Donc là, on est dans l'univers
étendu.
Plutôt
univers étendu, mais on a quelques évocations, notamment dans le spin-off Rogue One, justement, où la planète Casino, où ils sont, c'est justement des profiteurs de guerre, etc., qui vendent un peu aux deux côtés.
Alors ça, si je peux me permettre, c'est pas Rogue One, c'est l'épisode 8.
Ah, c'est l'épisode 8, pardon.
Donc les derniers Jedi.
C'est ça, de faire aussi des franchises aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que, à mon sens, il y a pas mal de critiques quant au fait que, voilà, les chasseurs taille sont inférieurs aux X-Wing, par exemple, d'un point de vue pied à pied, ce qui est totalement vrai. Mais à mon sens, ça se...
Donc les TIE Fighters, on va le rappeler, voilà, sont les chasseurs, sont les espèces de boules avec deux pales, une pale de chaque côté de l'Empire. Voilà. Et les X-Wing sont les chasseurs de la Résistance parce qu'ils ont des ailes à géométrie variable, mais en X.
Voilà, tout à fait, pardon.
C'est quoi ?
C'est un F-14 avec un X, en fait. C'est un Tomcat avec un X, globalement.
Well.
Ça geek sur plusieurs plans, c'est assez compliqué.
Quelle
est la doctrine de l'Empire ? Elle est définie par le Grand Moff Tarkin. Les Grands Moffs, c'est l'une des autorités politiques les plus élevées de l'Empire. Ils ne répondent qu'à l'Empereur. Dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, il explique à Leia, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que la doctrine de l'Empire, ce n'est pas, et c'est la doctrine Tarkin, de son nom, ce n'est pas de commander par la force, mais de commander par la peur de la force, la peur de l'emploi de la force. Et quand on regarde les différents systèmes d'armes de l'Empire, on voit que ça préside à leur conception, à leur design. Les chasseurs taille font un bruit, bon, il n'y a pas de son dans l'espace, mais ils opèrent aussi dans l'atmosphère, font un bruit qui est pas sans évoquer le bruit des chasseurs bombardiers Stuka de la Deuxième Guerre mondiale, de la Luftwaffe de la Deuxième Guerre mondiale. De la même manière, les marcheurs de combat, comme ce soit les AT-AT ou les AT-ST qu'on voit, les AT-AT on les voit notamment dans la bataille de Hoth dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, la bataille d'ouverture, qui est une bataille terrestre dont on reparlera sans doute, l'effet psychologique de terreur induit chez les rebelles est très important et très bien montré dans le film, jusqu'à ce que par un procédé d'innovation frugale, la résistance arrive à bricoler quelque chose pour les défaire. Mais voilà, c'est pas tant la force qui est recherchée que la terreur chez l'adversaire.
Si je peux me permettre, ces grands marcheurs, je sais pas trop ce qu'ils peuvent évoquer d'autre, mais moi ce qui m'évoque, c'est évidemment les éléphants de combat de l'Antiquité, qui avaient un usage stratégique, qui avaient surtout un énorme usage psychologique. Oui, simplement, on peut ajouter sur ce complexe industriel ou militaire que justement ce qu'on voit dans l'épisode 8 donc les derniers Jedi, et ce qu'on voit justement sur cette planète casino que vous évoquiez, c'est, il y a un passage extrêmement beau. Donc c'est une place, on va rappeler que c'est une planète casino où beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent viennent jouer de l'argent et viennent jouer aux courses, et il y a une phrase de dialogue à un moment qui dit, et qui ça peut être ces gens-là? Bah, il y a un seul type de personne qui peut avoir autant d'argent que ça, c'est forcément des industriels de l'armement. Et de fait, on voit après, quand il commence à voler un vaisseau,
c'est Finn et Rose.
C'est Finn et Rose, pardon, oui. Il vole un vaisseau d'un industriel de l'armement, et on voit qu'il fait des vaisseaux à la fois pour l'Empire, il fait à la fois des TIE Fighters et des croiseurs, et il fait en même temps des X-Wing pour la Résistance. Ce qui renvoie au fait que les industriels de l'armement ont souvent des positions, ont souvent une capacité à négocier avec beaucoup de gens. Captain Marin ?
Oui, par rapport à ce que disait Wael sur la doctrine Tarkin, ou Tarkin, je ne sais même pas comment ça se prononce exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les films originaux, il y a très très peu d'exposition, en fait. Vous regardez les films épisodes 4, 5, 6, etc. On sait très peu de choses sur l'univers. Et c'est ensuite qu'il y a eu cet univers étendu qui vient un peu boucher tous les trous. Et cette histoire de doctrine Tarkin, c'est là-dedans. Mais c'est vrai que c'est, je pense, aussi une des forces de l'univers Star Wars, c'est d'avoir un... Et qu'il y a du son dans l'espace, par exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il y a très très peu d'exposition, très très peu d'explications sur comment fonctionne l'univers. On voit jamais la population civile, par exemple, très peu la population civile dans les Star Wars. Et je reviens sur les industriels qu'on évoquait. Ils ont assez mauvaise presse, hein, dans les Star Wars, puisque dans toute la prélogie, donc épisode 1, 2, 3... Vous regardez dans l'épisode 1, 2, 3, c'est pas l'Empire contre la Rébellion, hein, c'est la République Galactique, ou je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, une République, contre une fédération du commerce, contre des séparatistes. Et dans cette fédération du commerce, vous avez donc des commerçants, des banquiers, des industriels, donc généralement les gens qui sont en lien avec l'économie, ils ont assez mauvaise presse, hein, dans l'univers Star Wars.
Ok, très bien. Alors moi, je vais juste dire un truc rapidement, puisque chacun vient avec ce qui l'intéresse. Moi, je dois dire, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est un point, je vais peut-être être plus rapide, mais c'est entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le commandement, et surtout la manière dont les Jedi interagissent avec tout le monde, et surtout ce que je trouve fascinant. Alors évidemment, moi, je travaille de plus en plus sur l'histoire du commandement, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais notamment dans l'épisode 2 et l'épisode 3, c'est la manière dont les Jedi ont de ne... notamment dans l'épisode 3, de ne pas du tout interagir avec tous les soldats qui forment leur force, à savoir, bon, en l'occurrence, les clones. Et c'est fascinant parce qu'en fait, ils se contentent de les diriger, de leur donner des ordres, de temps en temps de leur dire merci, enfin, ça va vraiment très vite. Et ce qui est en fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de commandement, enfin, que ce soit un chef de bataillon, un commandant, un général, c'est le paroxysme de tout ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire d'avoir un chef qui est complètement déconnecté de ses hommes, puisque quand un chef est déconnecté de ses subordonnés, c'est là que les ordres sont logiquement remis en question d'une manière ou d'une autre. Et c'est là surtout qu'il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas de sentiment d'appartenance commun, ce qui est, bon, très propre, ce qui est assez logique dans l'esprit de ce que sont les Jedi, puisque c'est une force d'exception, etc. Ça, on reviendra peut-être là-dessus. Mais, et du coup, c'est aussi ce qui permet, dans une certaine mesure, que les Jedi ne comprennent rien à ce qui se passe, et que dans l'épisode 3, ils se fassent tous éliminés d'un coup, généralement d'un coup de pistolet dans le dos. Alors bon, c'est parce que c'est des clones qui se font reprogrammer, etc., etc. Mais quand même, ça dit quelque chose de la relation au commandement, c'est que quand vous avez aucun lien avec vos hommes, bah en fait, vous êtes quand même assez susceptible au fait de vous faire prendre un peu en traître, et que spontanément, disons, la pyramide de l'autorité soit s'inverse, soit se désagrège complètement. C'est comment dire, c'est la mère en quelque sorte de toutes les mutineries. Olivier Schmitt.
Oui, le point que vous soulevez est effectivement très important, parce qu'en fait, ça renvoie à une question, à mon avis, plus large de question des relations civilo-militaires et d'efficacité militaire. Et quels sont les moments où on génère de l'efficacité militaire, et quelle est la bonne interaction entre civils et militaires dans la conduite de la guerre. Et typiquement, les Jedi, notamment dans les épisodes 1, 2, 3, se retrouvent dans la situation d'être à la fois une autorité politique, puisqu'ils ont ce rôle de garder la paix dans la galaxie, donc ils servent d'autorité politique, pas en co-gestion, mais en conseil des autorités politiques censément légitimes qui sont la République, donc ils ont ce rôle politique, mais d'un seul coup ils basculent à avoir un rôle directement militaire, d'interface, de commander une armée, et on met, donc ils ont des grades militaires, puisqu'ils deviennent généraux les Jedi sont les généraux dans les armées de la République. Et en fait, d'un seul coup, n'ayant jamais commandé autre chose qu'eux-mêmes et éventuellement un Padawan, se retrouvent à devoir commander immédiatement des troupes relativement conséquentes. Donc il y a cette double dimension de, à la fois, comme vous le mentionnez, le problème du commandement, qui est qu'on met comme généraux des gens qui à la compétence de commandement relativement limitée, et probablement ils ont été nommés généraux du fait des liens avec l'autorité politique. Et ça renvoie à une littérature classique dans les relations civilo-militaires, commençant à Samuel Huntington, hein, mais sur le modèle de qu'est-ce qui est efficace, quel est le degré de contrôle que le politique doit exercer sur le militaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Star Wars, il y a une relative confusion des genres. On voit par exemple assez régulièrement des civils faire des briefings tactiques avant une action. On peut voir dans certains épisodes Leia, donc chef civil de la résistance, expliquer quel est le plan tactique d'assaut de l'étoile ardente. Là, il y a une confusion des genres dans l'univers Star Wars qui est assez intéressante, qui peut expliquer aussi des défaites militaires.
C'est très vrai, c'est souligné d'ailleurs dans l'épisode 8 où Leia se fait appeler général. Mais où quelqu'un dit à un moment, non, mais pour moi, c'est avant tout une princesse, mais elle veut absolument se faire appeler général. Well?
Oui, par rapport à l'ordre 66 que vous évoquiez tout à l'heure.
Donc, l'ordre 66, on va rappeler, c'est le fameux ordre qui est envoyé par Darth Sidious, donc le chef des Sith, l'empereur, qu'il est envoyé à tous les commandants clones, oui. Qui ensuite le répercutent à leurs subordonnés clones, et c'est le fait d'éliminer tous les Jedi.
Ça, juste très rapidement, la référence est assez évidente par rapport à la pratique du frag pendant notamment la guerre du Vietnam, où certains soldats qui estimaient être commandés par des officiers ou des sous-officiers, disons incompétents et dangereux, glissaient une petite grenade dans les latrines ou leur tiraient dans le dos pour s'en débarrasser. Voilà. Pour moi, la référence était assez claire.
Quelqu'un sait pourquoi c'est 66 ?
Il doit y avoir des. Je ne sais pas pourquoi c'est 66. Par contre, une des références de cet ordre 66, à mon avis, moi, ça me fait plutôt penser à la nuit des longs couteaux.
Oui, aussi.
Où, donc, ouais. cette soirée où tous les généraux SA sont éliminés par la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Mais là aussi, il y a énormément
C'est comparer les Jedi à des SA, c'est ambitieux.
Mais ça vient d'être d'accord. Dans l'univers, ça marche, hein, parce que c'est une force politico-militaire qui a aussi un rôle de police au service de l'autorité politique. Et quand il n'y en a plus besoin, il faut s'en débarrasser.
On peut ajouter juste très rapidement là-dessus que, par ailleurs, c'est pas inintéressant de... Le fait que, justement, les Jedi soient complètement hors autorité, soient un corps d'exception qui ne répondent à personne, ça renvoie peut-être aux apories d'une... Ils sont d'une professionnalisation trop large de l'armée, c'est-à-dire de militaires qui sont complètement séparés de la population et de la distance qui peut se créer en termes d'image de ces militaires, puisqu'on voit que dans l'épisode 3, il y a une grosse offensive de communication pour dire que les Jedi en fait veulent détruire la République, qui a l'air d'assez bien prendre, puisque une population militaire et une population qui a du pouvoir, qui est complètement séparée du reste de la population, peut assez facilement la représenter comme séditieuse, qui veut faire un coup d'État. Ce qui, par ailleurs, on pourrait argumenter que c'est pas faux et que les Jedi voulaient vraiment faire un coup d'État à la fin de l'épisode 3. Olivier Schmitt.
Et je pense que là, effectivement, il y a cette dimension, mais sur ce point-là, il faut pas oublier que les Jedi sont un ordre qu'on peut qualifier de religieux. Ce sont fondamentalement des moines soldats. Et donc, du coup, il y a une dimension idéologique de leur ordre qui, à un moment ou à un autre, peut rentrer en conflit avec l'autorité politique. Qu'on trouve l'autorité politique légitime ou pas, qu'on estime que Darth Sidious, qui en l'occurrence vient de l'ordre opposé, donc il y a la dimension de toute façon de conflit de religion qui est sous-jacent dans l'intégralité de l'univers de Star Wars. Mais pour revenir à cette dimension spécifique, les Jedi sont en ordre de... comparable aux Templiers, en fait. C'est un ordre de moines-soldats et qui ont, du coup, cette position un peu spécifique dans l'univers et dans l'articulation avec le politique. Et c'est pas très différent de Philippe le Bel et de la manière dont l'ordre Templier a été traité.
Et la référence est même d'ailleurs très claire, puisque effectivement, évidemment que les ordres de chevalerie sont la référence directe pour les Jedi, et inversement, les Sith, qui sont les pendants, sont évidemment des références directes à la pyramide féodale, puisque on les appelle l'ordre, et ils ont des titres de noblesse, donc c'est vraiment d'un côté la noblesse contre de l'autre côté la noblesse non affichée et une fraternité que sont les Jedi.
La musique qui en ce lieu paraît-il réelle. C'est le côté obscur de la force.
Anthony Morin. Votre deuxième point, je crois que c'était sur la bataille de Hoth, c'est ça ?
Oui, je voulais revenir sur cette bataille. Donc, c'est la bataille de Hoth, c'est la bataille qui a lieu au début de l'épisode 5, au début de l'Empire contre-attaque. À la différence des batailles qu'on a déjà vues dans l'épisode précédent, puisque le premier film sorti à l'époque, c'était l'épisode 4, ce n'est pas une bataille spatiale, c'est une bataille aéroterrestre. Elle a lieu au début du film, et pourquoi je la trouve intéressante, cette bataille ? Bon, alors, déjà, je la trouve très bien filmée, elle est très cinématographique.
Il faut préciser, c'est pas souvent qu'on voit une bataille dans un film de SF qui tient 40 ans après. Ça fait 40 ans. Oui, ouais, parce que s'il est sorti en 80. Donc oui, qui tient 40 ans après et qui se laisse vraiment bien regarder, quoi.
Ouais, elle est toujours aujourd'hui, mais de manière générale, même la trilogie initiale, donc les films sortis entre 76 ou 77 et 83, au niveau des effets spéciaux, tiennent quand même relativement la route, même si évidemment ça vieillit, hein, forcément. Mais pour revenir sur cette bataille, donc qui se déroule au début du film, petite nouveauté par rapport là aussi au film précédent, généralement dans Star Wars, quand un film Star Wars s'ouvre par une bataille, ça veut dire que le film se termine mal, en général. C'est une règle de ces films-là. Et pourquoi elle est intéressante ? Parce que c'est qu'au-delà de ses qualités cinématographiques, quand on s'amuse à analyser ce qui se passe en détail dans cette bataille, à essayer d'appliquer les grilles de compréhension, les grilles de lecture d'une personne qui s'intéresse à l'analyse stratégique. Bon, non seulement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses quand même qui vont pas dans cette bataille, mais ce que moi j'ai trouvé dans la manière dont c'est organisé, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que...
J'adore ça, c'est le moment que j'attendais, c'est le moment où on va dire que les plans de la résistance étaient ni fait ni à faire, c'est ce qui est parfaitement vrai.
Alors pas que la résistance, hein, pas que la résistance. Hein.
Ils sont tous bon,
peut-être qu'on va développer un peu, mais bon après tout on est au cinéma, hein. Le but c'est de faire du spectacle, là en l'occurrence ça marche, mais d'un point de vue stratégique ou tactique c'est pas génial. Mais là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que bon, cette bataille elle a lieu au début du film, le film nous la présente comme c'est une défaite des rebelles. Moi, j'ai un peu le postulat inverse, c'est qu'en réalité, en appliquant les grilles de l'analyse tactique, de l'analyse militaire, stratégique à cette bataille, en réalité, on se rend compte que la bataille de Hoth, c'est une défaite pour l'Empire. C'est une défaite pour l'Empire, pourquoi ? Puisque l'objectif des rebelles, ce n'est pas d'affronter l'Empire, c'est de fuir. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir résister à un assaut frontal de l'Empire. Leur objectif, c'est de fuir. Et ils y arrivent. Ils y arrivent. L'Empire débarque. Certes, ils détruisent la base, mais ils loupent leurs objectifs principaux, qui sont, alors pour les militaires de l'Empire, d'empêcher les rebelles de fuir. Les rebelles, en tout cas de ce qu'on voit à l'écran, semblent percer le blocus impérial sans trop de difficultés. Et l'objectif plutôt personnel de Dark Vador, qui est impliqué à la fin de la bataille, qui est de capturer Luke Skywalker, donc le héros hein, de la première trilogie de Star Wars, échoue. Dark Vador aussi échoue. Donc en réalité, lorsqu'on commence à s'amuser à déconstruire cette bataille avec ces outils-là, avec les outils de l'analyse stratégique, on se rend compte qu'on peut renverser l'explication, le sens que donne le film à la bataille. D'une défaite, en réalité, et ça devient peut-être pas une victoire, mais en tout cas, une non-défaite pour les rébellions et de manière certaine une défaite pour l'Empire.
Alors moi je vais faire une hypothèse parce que effectivement c'était déjà disons une thèse centrale de votre article dans DSI dont on a parlé et je trouve ça très intéressant. En même temps, on pourrait aussi dire que ça apparaît souvent, c'est que dans une certaine mesure ce que la résistance a de plus précieux sont ses hommes et sont ses pilotes au sens où elle n'a pas les moyens de l'Empire. C'est-à-dire, on voit clairement que assez souvent les dirigeants de la résistance font des listes. C'est genre, là on en a perdu, on peut plus en perdre. Par opposition à l'Empire, qui eux peuvent perdre largement. Donc, dans ce sens-là, la bataille de Hoth, la résistance perd quand même beaucoup de monde. Après, on pourrait toujours répondre, et c'est aussi une tension qui est, je trouve, très forte dans, que même les batailles perdues permettent de recruter encore plus de gens après. C'est notamment toute la thèse de la fin de l'épisode 8. Mais allez-y, vous vouliez.
Non, oui, effectivement, ils sont surclassés tactiquement par les forces de l'Empire, mais ils parviennent à sauver l'essentiel, en tout cas de ce que nous montre le film. Alors, ils n'ont pas de pertes très importantes, tout le leadership de la résistance, enfin de la rébellion plutôt, parvient à s'échapper, et il semblerait qu'ils arrivent aussi à évacuer une grande partie de leur matériel, puisqu'à la fin du film, de l'Empire contre-attaque, donc, on voit que les rebelles ont une flotte, bon, certes pas équivalente à celle de l'Empire, mais qui est quand même assez importante, qui ne semble pas avoir trop souffert.
Well.
Une chose, un point qui me semble particulièrement intéressant, c'est le fait de souligner, comme mon camarade vient de le faire, le fait que Dark Vador, par exemple, n'a pas forcément le même agenda que celui de l'Empire. Le fait que même l'Empereur n'est pas forcément le même agenda que celui de son propre Empire. Une certaine distinction du corps du roi et du corps de l'État. Le fait que Dark Vador n'est pas forcément, et à la fois, dedans et en dehors de la hiérarchie de l'Empire. Par exemple, il s'adresse dans l'épisode 4 avec une certaine déférence au grand Moff Tarkin, qui lui réfère directement à l'Empereur, mais sans vraiment obéir à ses ordres. De la même manière, avec Luke Skywalker, justement, il poursuit son propre agenda, qui est de prendre Lang, de lier Lang avec son fils, le convaincre pour renverser l'empereur Dark Sidious, pour justement gérer la galaxie ensemble, puisque comme il est dit dans les ordres Sith, il n'avance que par deux. Donc il y a aussi un conflit au sein même de l'Empire. L'Empire n'est pas aussi une masse unitaire comme certains pourraient le penser. Il y a des dissensions en son sein même et à son plus haut niveau.
Ouais, mais ça, c'est tout à fait propre aussi à toutes les grandes organisations, que c'est dans les grandes organisations justement qu'on voit apparaître la pluralité. Olivier Schmitt ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec le point de Well, qui est que Dark Vador a son propre agenda à ce moment-là, qui est de orienter Luke vers une formation qui lui permettra d'être recruté comme Sith potentiel ensuite. Et de ce point de vue-là, du point de vue de l'agenda Dark Vador, la bataille de Hoth est remplie, parce que Luke quitte la rébellion, va se former, éventuellement mal se former auprès d'Yoda, et il y a une opportunité de le recruter derrière. Donc on pourrait faire effectivement une analyse multiniveau en fonction des acteurs, qui a rempli son agenda. La rébellion a rempli son agenda, ils ont survécu, l'Empire a une relatif succès tactique, ils ont détruit certaines des capacités de la rébellion, mais Dark Vador a aussi, en tout cas à ce moment-là, il est dans une dynamique où il remplit son propre agenda. Donc il y a
C'est la bataille win-win, quoi.
C'est la bataille win-win, hein.
Je voulais juste rebondir sur la situation de Vador. On disait tout à l'heure que les Jedi ont une position un petit peu floue dans la République. La position de Vador est un peu floue aussi, hein, dans l'épisode 4. Comme disait Wael, il a l'air un peu à côté de la hiérarchie impériale. Ça a l'air d'être un peu un homme de main. Il en réfère au Moff Tarkin. Mais en même temps, il y a quelqu'un autour de la table de réunion qui n'hésite pas à critiquer son autorité. Ça se passe pas très bon. Il manque un peu de foi, hein. Ça se passe pas très bien pour lui, mais le fait est qu'il défie son autorité devant tout le monde. Donc là, Vador, c'est un peu plus un homme de main, et à partir de l'épisode 5, là, vraisemblablement, il prend plus d'importance et devient presque le commandant en second.
Et ça, on peut ajouter que c'est un truc qui est très intéressant et qui m'a beaucoup frappé, c'est l'espèce d'arrogance qu'ont tous les militaires de l'Empire. Alors c'est vrai, effectivement, dans la trilogie centrale, c'est vrai aussi dans la post-logie, beaucoup. C'est la capacité qu'ont les généraux, alors dans l'épisode 7 et 8, c'est Hux, c'est le général Hux, mais c'est cette capacité que ces types-là ont de parler mal à des maîtres Sith qui peuvent les étrangler à distance, me frappe toujours énormément, quoi. Ils sont extrêmement confiants qu'ils vont pas se faire étrangler à distance, et j'ai jamais compris pourquoi. Olivier Schmitt ?
En fait, de manière indirecte, ça te permet de soulever un point, c'est qu'en fait, ils oublient et ils n'y croient pas. Et là, je pense qu'on touche à un point pareil, si on revient sur la technologie dans Star Wars, il n'y a pas d'écrit dans Star Wars. Il y a les seuls écrits qu'on voit, ce sont au fond, c'est la bibliothèque éventuellement des Jedi, mais les communications se font par enregistrement, donc on se montre, on parle. C'est une culture qui est basée sur l'oralité et pas du tout sur l'écrit. Donc à partir du moment où la République s'effondre, où il n'y a plus de la mémoire de ce qu'ont pu être les Jedi, qui de toute façon n'étaient pas très nombreux dans l'univers, commence à s'effacer, 50 ans plus tard, les gens ont oublié ce que c'était. Je pense qu'il y a une vraie question du rapport à l'écrit dans cette civilisation qui est extrêmement minoritaire, et c'est aussi une manière dont le temps est représenté dans Star Wars. C'est complètement cyclique. Les films passent leur temps à se citer les uns les autres. Il y a des scènes qui se renvoient entre le 4 et le 9, justement, parce que dans le 9, pareil, Il y a exactement la réplique de la scène d'ouverture du 4 où un général essaie d'insulter Kylo Ren et Kylo Ren fait exactement la même chose. Donc les films se citent systématiquement parce que le temps est vu de manière cyclique. Et pourquoi est-ce qu'il est vu de manière cyclique ? Parce qu'on oublie, parce qu'il n'y a pas d'écrit dans Star Wars.
En fait, il y a quelques livres, c'est les livres qui sont dans le temple Jedi.
Et qui sont
brûlés.
Ils ne sont pas brûlés.
Ils sont conservés.
Ils sont conservés par Rey qui les cache sur le Faucon Millenium. Il y a un tout petit insert à la fin de l'épisode 8.
Et elle les consulte dans le 9.
Voilà. Mais c'est absolument minoritaire en termes de la manière dont cette civilisation fonctionne.
Et d'ailleurs, ces livres-là, enfin, tout le monde en dit du mal. C'est-à-dire Luke Skywalker veut s'en débarrasser. Yoda dit à un moment.
C'est pas grave,
c'était pas des page-turners. c'est étonnant, effectivement. J'y avais jamais pensé, mais l'irrespect pour l'écrit. Well.
Oui. Alors, juste rapidement, par rapport au fait qu'on ait oublié les Jedi, les Sith se sont pas fait prier aussi pour occulter au maximum, effacer au maximum l'héritage des Jedi. Et même eux, ça les arrange que la populace ne sache pas vraiment que ça existe, que la Force existe, parce qu'ils ont toujours opéré dans l'ombre. Et même la tête de l'Empire, ils préfèrent rester dans l'ombre. Mais passons là-dessus.
Alors, deuxième point.
Oui, alors.
Je crois que c'était sur le contrôle aux marges de l'Empire.
Voilà. Alors, deuxième point, mon sens, ce serait de partir sur un postulat qui est peut-être un peu à rebours de la perception qu'on pourrait avoir de prime abord de l'Empire, c'est-à-dire le fait de contester son contrôle absolu de la galaxie. Je pense, titre personnel, en regardant les films, en lisant deux, trois petites choses à côté, que le contrôle de l'Empire n'est pas forcément total et absolu sur la galaxie, bien au contraire, notamment sur les marges de l'Empire, c'est-à-dire la bordure extérieure, là où il y a Tatooine, par exemple. Un exemple parmi d'autres, l'Empire n'hésite pas à entretenir des liens avec la pègre, Jabba le Hutt par exemple, notamment Dark Vador qui offre à Jabba le Hutt la statue de Han Solo cryogénisée en signe de bonne volonté, en gage de bonne volonté. Ils aiment bien cultiver ce genre de supplétif ou le fait de recourir à des contractors, enfin des chasseurs de primes à l'instar de Boba Fett pour aller traquer Luke Skywalker et ses camarades dans la deuxième trilogie. C'est assez intéressant dans le sens où voilà, ils n'ont pas un contrôle absolu et donc ils essayent de faire avec, de tisser des liens, de tenir des organisations, des gens redevables, histoire d'exercer une influence indirecte, parce qu'ils n'ont pas les moyens humains de tenir une galaxie. C'est quelque chose que je pense qu'il serait bon de garder en tête, c'est que c'est grand, une galaxie, on est face à une rébellion. Ouais, désolé, mais bon, j'en pense un peu quelque part.
Effectivement,
on est face à une rébellion qui maîtrise la technologie de la vitesse lumière, ce qui lui confère une assez grande liberté d'action, un peu aux quatre coins de la galaxie. Ils sont difficilement traçables, à part dans l'épisode 8, où grâce à un MacGuffin, on arrive à les tracer.
Alors un MacGuffin, on va rappeler que c'était c'est une théorie pour... on va pas le rappeler, c'est compliqué, mais c'est une théorie autour de Hitchcock. C'est l'idée, en gros, qu'il y a un point, c'est une facilité de narration autour d'un point qu'on n'explique jamais.
C'est de la narration par l'objet. On prend un objet, c'est un objet qui n'a pas qui n'a pas d'autre fonction que de servir à faire avancer l'intrigue.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était mon point, c'est que l'Empire n'est pas aussi puissant qu'il prétend l'être. Voilà.
Ce qui accessoirement renforce la théorie que Star Wars est fondamentalement un western dans l'espace et qu'il s'agit de contrôler les grands espaces ou pas.
Alors ça, j'ai dit qu'on n'allait pas faire trop de références, mais s'il y a bien un endroit où ça éclate incroyablement, c'est dans la série The Mandalorian, qui n'est littéralement qu'un western dans l'espace, avec un nombre de scènes et de plans qui sont copiés de classiques du western, qui est absolument invraisemblable.
Fin de la parole. Et avec un épisode entièrement calqué sur les sept mercenaires, même si lui-même était calqué sur les sept samouraïs.
Voilà.
Mais bref, voilà. Star Wars, c'est plein de choses. Lucas disait que c'était de la fantasy dans l'espace. Là-dessus, il y a du western, beaucoup. Il y a de la SF, il y a un peu de film noir, il y a du peplum dans l'épisode 1 notamment. Donc voilà. Mais bon, bref, là, c'est un peu long. Je voulais rebondir en réalité sur ce que disait Wael sur le contrôle qu'exerce l'Empire sur la galaxie. En fait, l'Empire galactique, c'est un peu l'Empire britannique. C'est-à-dire qu'ils vont... Ils, ils, Ils se servent, ils ont leur force militaire à eux, ils font du maintien de l'ordre via leur propre force militaire, mais ils ne peuvent pas tout contrôler, et pour assurer donc ce contrôle-là, ils ont recours à des supplétifs. Et là, moi, ça me permet de retomber sur une doctrine de l'Empire britannique qu'ils ont notamment utilisée durant l'entre-deux-guerres en Irak, l'air control. La doctrine de l'air control, qui était en fait pour eux le moyen de faire du maintien de l'ordre via la Royal Air Force. Ils ont fait ça notamment.
Alors c'est quoi cet air control?
L'air control, c'était une manière de faire du maintien de l'ordre pour l'Empire britannique dans ses colonies et notamment en Irak. Je le fais de manière extrêmement succincte. Et pour moi, l'Empire...
Mais de quoi? Juste en contrôlant les airs? Juste en contrôlant...
Oui, c'est-à-dire via la mobilité, et notamment dans une zone un peu difficile d'accès comme peut l'être le désert, c'est se servir de la mobilité que procurait l'avion, alors l'avion des années 20-30, pour faire du contrôle des populations, pour faire du maintien de l'ordre, en fait. Quand une tribu se montrait plus ou moins récalcitrante envers l'autorité de la couronne, eh bien c'était aller effectuer un raid punitif, par exemple, avec au moyen de ces appareils-là. Eh bien, l'Empire fonctionne un petit peu de la même façon. Enfin, l'Empire galactique, cette fois, hein, fonctionne un petit peu pareil. Alors, je ne sais pas s'ils ont une doctrine qui s'appelle le Space Control, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire d'avoir comme ça, notamment grâce à leurs fameux croiseurs, qui sont ils appellent ça croiseur, mais en fait c'est tout, hein, c'est du porte-avions, c'est du navire amphibie, c'est du croiseur, enfin c'est plein de trucs, et via ces appareils-là qui sont vraiment la colonne vertébrale, hein, de la puissance militaire impériale, via ces appareils-là, eh bien de faire ponctuellement des actions de maintien de l'ordre un petit peu plus musclées, lorsqu'il est nécessaire de montrer son autorité.
Et on tient l'euphémisme de l'émission déjà. Bon, donc maintenant, comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on réfléchisse, au-delà de toutes ces transpositions, qui évidemment sont très riches, au tableau et à la stratégie d'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a bien un truc qui fait aucun doute dans la trame globale de Star Wars, c'est que c'est un conflit dissymétrique, ou en tout cas perçu comme dissymétrique, entre une superpuissance et des forces de résistance. Je peux d'ailleurs recommander un excellent ouvrage d'analyse stratégique de tout ça en anglais qui s'appelle Strategy Strikes Back, qui était sorti il y a quelques années, même quelques courts podcasts qui vont avec. Mais tout ça, cette configuration, c'est vrai dans toutes les configurations, c'est-à-dire même dans la prélogie, donc dans les épisodes 1 à 3, avant qu'il y ait un empire. Alors d'une part, il y a déjà le souvenir d'une époque où les Sith régnaient sur la galaxie, mais ce qui est ce que veut rétablir Palpatine, mais surtout, même, il y a déjà les mêmes problèmes qui se posent déjà, puisque le fond de l'intrigue, c'est qu'à ce moment-là, la République lutte contre des forces séparatistes, donc la Fédération du Commerce et le Comte Dooku, et c'est en prenant le prétexte de cette lutte contre les forces séparatistes qu'on arrive à l'Empire. Mais ensuite, ça devient encore bien plus clair, et on a beaucoup dit que l'Empire, alors il y a la référence à l'Empire britannique qu'on n'avait pas forcément, mais on a beaucoup dit que ça représentait évidemment l'Empire romain, alors c'est les Jeux du Cirque, etc., puis c'est l'idée de la Pax Romana, etc., mais aussi beaucoup les États-Unis dans et après la Seconde Guerre mondiale. Il y a évidemment la notion d'une méga-puissance contre laquelle il faut lutter, malgré le décalage de moyens, mais il y a aussi l'idée d'une arme absolue, donc l'étoile noire, qui peut représenter aussi la bombe atomique, et on peut signaler au passage que tout ça n'est pas fortuit dans la popularité de cet univers, qui a été tout de suite lu, notamment dans les milieux contre-culturels aux États-Unis dès 1977 et donc dès la première sortie, comme que l'idée que Star Wars montre une résistance malgré tout victorieuse face à l'Empire américain. Donc, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus, sur la grosse stratégie et sur l'idée, sur la manière dont Star Wars représente, disons, une sorte de dissymétrie des moyens et une sorte de manière dont une très grande puissance essaye de gérer ses contestations et ses résistances. Olivier Schmitt ?
Je pense qu'un point à soulever, en tout cas dans les films, c'est de rappeler pourquoi l'Empire est si obsédé par cette rébellion-là spécifique. Et c'est parce qu'elle est aussi en partie constituée de figures charismatiques qui ont potentiellement la possibilité de devenir des facteurs de ralliement. Et notamment, ces personnalités charismatiques, elles s'incarnent dans la figure de Leia, qui est elle-même Et la descendante d'un sénateur, c'est la fille adoptive, on sait que c'est la fille adoptive, mais elle ne le sait pas à ce moment-là, c'est la fille adoptive d'un sénateur de l'ancienne République qui est présentée dans la prélogie et aussi dans la série télé The Clone Wars comme étant un acteur important.
Le sénateur Organa.
Le sénateur Organa qui est présenté comme un personnage... oui, exactement, en plus venant d'une planète qui a un rôle symbolique assez fort. Et donc l'un des parce que fondamentalement, si on regarde la disparité des moyens, on a toujours l'impression que cette rébellion, elle tire la langue, quoi. Je veux dire, en termes de pure masse, on a toujours l'impression qu'elle tire la langue, la manière dont elle est représentée. Et si elle continue à exister, pourquoi ? C'est parce que fondamentalement, il y a un soutien populaire potentiel qui existe, qui est fort, parce qu'il existe dans cette rébellion des acteurs charismatiques. Et je trouve que cette notion de pourquoi l'adversaire ? Parce que l'adversaire a un... pour l'Empire, l'adversaire, c'est la rébellion, et c'est un problème parce qu'il y a une possibilité de mobiliser la population contre l'Empire existant. Donc, voilà.
Oui, concernant ce rôle de la population dans l'univers Star Wars, c'est jamais vraiment très clair. On ne sait pas quel rôle a cette population. Alors, à part dans l'épisode 9. Dans l'épisode 9, à la fin, on a alors que la situation est désespérée pour la résistance, on a toute une flotte...
Pour préciser à ce stade du podcast que ni Well ni moi n'avons vu l'épisode 9, honte sur nous, mais du coup, s'il y avait une caméra, elle nous verrait en train de nous accrocher à nos sièges, en train d'être prêt à se faire spoiler. Malheureusement, je ne peux pas me boucher les oreilles, mais allez-y.
C'est un schéma narratif extrêmement classique, une situation désespérée, on est vraiment au fond du trou, et à la dernière seconde, la cavalerie vient nous délivrer, c'est ce qui se passe dans l'épisode 9. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc un peu avant dans le film, il y a un des personnages qui part justement essayer de rallier une des anciennes figures de la rébellion, d'ailleurs, Lando Calrissian, qui part essayer de rallier les systèmes à la cause de la résistance. Et donc, il y parvient, et on a tous ces gens, et là, je mets des guillemets à ces gens, puisque c'est comme ça que non, c'est plus l'Empire maintenant, c'est le dernier ordre. Les noms, ils se demandent, mais d'où vient cette flotte, d'où vient cette armée? Et un des officiers du dernier ordre répond, mais ce sont juste des gens. Donc, c'est le seul moment où, dans Star Wars, on voit qu'il existe peut-être une population et que peut-être cette population aurait un poids politique, aurait un rôle à jouer dans la destinée de la galaxie.
Ça, c'est très vrai, et c'est un truc que j'aime beaucoup, notamment dans l'épisode 3, c'est même au moment de la révolution où l'Empire arrive, etc., c'est assez discret, mais on voit là, en arrière, donc dans la cité principale, qui est la cité de Coruscant, on voit que la ville continue à vivre comme de rien n'était, les voitures continuent à passer, les gens continuent probablement à aller au travail en bagnole, enfin, c'est-à-dire toute l'intrigue, la révolution, le coup d'État. Alors j'imagine bien que c'est parce que les images de synthèse permettaient pas de... Mais bon, peu importe. C'est la ville a l'air de continuer à vivre loin malgré les intrigues de palais qui l'occupent.
Mais là, du coup, je peux rebondir sur ce qu'on disait avant sur la force et comment se fait-il qu'il y ait plein de personnes comme ça qui semblent avoir oublié ce qu'est la force, mais peut-être parce que nous, en tant que spectateurs, on a cette espèce de vision en tunnel sur ces intrigues de high politics, alors qu'en fait, je sais pas comment ils appellent ça, mais le citoyen moyen de la République, il s'en fiche, c'est pas ses affaires, ça le regarde pas. Nous, on a l'impression que les Jedi, tout le monde connaît, on a l'impression que la force, tout le monde connaît, que les intrigues, tout le monde connaît. Alors qu'en fait, non, peut-être pas.
Si je veux juste terminer, il y a un personnage qui est très intéressant pour ça, c'est le personnage de Rey, qui est en tout cas au début de l'épisode 7, dont on voit qu'elle a une notion très vague de ce que sont les Jedi, de ce que c'est que la résistance, de ce
que
ça a été...
Tout comme Luke.
Tout comme Luke au début d'ailleurs. Mais pour autant, comment est-ce qu'elle vit ? Elle vit en désossant un ancien vaisseau impérial et en vendant les pièces détachées. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une interaction entre le fait que peut-être que la grande politique est loin, mais le hardware, il est là. Enfin, c'est-à-dire les objets et l'argent et la ressource monétaire et matérielle que représente l'Empire, quand même, infuse à plein de niveaux différents. Well,
alors, il y a deux choses qui m'interpellent par rapport aux relations entre l'Empire l'empire, enfin la grande stratégie et le monde civil un peu, comme on vient d'en discuter, c'est que d'une part, il n'y a pas de contrôle des armes dans l'empire, ils sont tous armés. Et pas que dans la bordure extérieure.
C'est,
j'ai l'impression
c'est
que
les
tout
États-Unis,
le monde. Non, mais voilà, c'est, je sais pas. Alors, ce que je viens de dire, c'est pas un plaidoyer pro-Second Amendement, hein, entendons-nous bien. Mais dans un régime qui se veut quand même autocratique, voire totalement totalitaire, et le fait qu'il n'y ait pas un semblant de contrôle des armes face à une population qui peut se retourner contre lui, c'est quand même assez. Ça interpelle. Et puis, une chose, les Stormtroopers, qui sont censés être l'élite de l'Empire, oui, ils savent pas tirer. Je vois le professeur Schmitt qui hoche la tête. Certes, ils savent pas tirer, mais ils sont censés être l'élite de l'Empire. Sur Tatooine, l'épisode 4, quand ils cherchent Luke Skywalker, ils font du, enfin, ils font la circulation. Ils demandent leur papier à Ben Kenobi, à Luke Skywalker, quand ils sont en Landspeeder. Donc, il y a pas vraiment de police. Oui, ils font sentinelle. Oui. Enfin, il y a pas vraiment de voilà.
Non, très bien, mais oui, sur la circulation des armes, peut-être que c'est aussi parce que les blasters ont cette particularité qu'il n'y a pas besoin de les recharger. Ou en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de les recharger, encore qu'il y a quelques références, des fois, on donne un blaster chargé. Mais bon, peu importe, mais du coup, ça fait que les armes ne s'usent pas. Il n'y a pas besoin de racheter des munitions. C'est-à-dire, une fois que le blaster existe, il n'y a pas de moyen d'arrêter son existence, on a l'impression.
Mais Olivier, c'est lié, je pense, à cette diffusion dont je parlais tout à l'heure. S'il y a une stase technologique, au bout d'un moment, elle est diffusée partout. Et on peut plus l'arrêter. Ce qui équilibre, d'ailleurs, les rapports de force. Et pour revenir au leader charismatique, il faut voir quand Rey rencontre Han Solo. Cette scène où d'un seul coup vous êtes à Han Solo
dans
l'épisode 7, où ce qui était un personnage quasiment légendaire en fait pour elle, d'un seul coup prend corps et ça la motive à essayer de
mais c'est très intéressant parce que pourquoi est-ce qu'il est légendaire pour Rey? Il est légendaire pas pour sa qualité de héros de la résistance, enfin un tout petit peu, mais surtout pour sa qualité de contrebandier.
Oui.
Elle le dit à un moment. C'est quelqu'un dit le héros de la résistance, elle dit mais non, le contrebandier, le célèbre contrebandier. Et ce qui est très intéressant sur la manière dont vivent aussi du coup les gens du commun, les gens.
Oui.
C'est-à-dire ben non, c'est ce qui compte, c'est pas d'être un héros politique, ce qui compte c'est d'être le plus rusé de cette partie-là de la galaxie pendant longtemps.
Et pour revenir pareil au Jedi, elle lui pose la question sur est-ce que les Jedi, Luke Skywalker, est-ce que c'est vrai? Et donc Han Solo répond it's true, it's all true. Parce que, bah, en fait, les gens savent pas. Enfin, c'est littéralement mythologique, en fait. Je pense dans la vie des habitants des planètes de Star Wars, cette dimension-là, elle est mythologique. Elle correspondrait à un peu la manière dont nous on pourrait percevoir les héros grecs. C'est des gens qui ont des pouvoirs plus importants, mais on ne sait pas s'ils existent.
Oui, après Rey, il me semble, là mon souvenir est un peu fou, mais il me semble qu'elle idolâtre aussi un peu Luke Skywalker, qui pour le coup, qui lui est pas vraiment une figure de contrebandier, qui est une figure un petit peu plus officielle. Mais pour revenir sur la grande stratégie, et en tout cas dans les trilogies, alors en tout cas dans la trilogie initiale, donc épisode 4, 5, 6, et dans la dernière, la post-logie épisode 7, 8, 9, on est quand même dans l'univers de ce que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est plus flou dans la prélogie. Mais dans le cas des deux autres, il n'y a pas d'autre issue au conflit, à l'affrontement qui oppose rébellion et empire ou résistance et premier ordre que l'anéantissement complet, l'anéantissement total de la partie adverse. Et ça, je pense que c'est un élément important à prendre en compte. C'est plus flou après en ce qui concerne les séparatistes et la République, on ne sait pas vraiment où s'arrêtent les revendications des séparatistes. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à l'univers de Star Wars, qu'en réalité, il peut pas y avoir de solution politique entre la rébellion et l'Empire. C'est soit l'un a gagné en anéantissant l'autre, soit il a perdu. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de l'épisode 6. L'Empire est décapité, l'Empereur est mort, et tout d'un coup, l'Empire en entier s'effondre. Et on observe d'ailleurs la même chose à la fin de l'épisode 9. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. La tête tombe, et immédiatement, l'intégralité du système s'effondre.
Mais parce qu'il y a ce substrat religieux, en fait, de l'opposition entre les Jedi et les Sith. C'est parce qu'il peut pas y avoir de négociation, parce que la rébellion est l'incarnation, enfin, redevient l'incarnation de ce qu'ont été les Jedi, et l'Empire, évidemment, est dirigé par les Sith. C'est pour ça qu'il peut pas y avoir, au final, de compromis politique.
Ouais. Juste un rapide point, univers étendu, si l'Empire semble s'effondrer sur lui-même, la décapitation et la mort de l'Empereur, c'est justement parce que l'Empereur l'a conçu pour ça, c'est-à-dire qu'il souhaitait être immortel, après moi le déluge, si l'Empire lui survivait, il ne devait pas pouvoir lui survivre, d'une part, et ensuite... Le délitement de l'Empire a été plus long que ça, en fait. Il y a eu des seigneurs de la guerre. Comment ?
Dans la vraie vie, ça a été plus long
que
ça.
Oui, voilà, dans la vraie vie, ça a été plus long que ça. Non, parce que ma position, c'est que les trois trilogies sont des films de propagande de l'Alliance Rebelle et de la Nouvelle République. Ça, c'est ma position. Ouais. Chacun peut avoir la sienne, mais ça, c'est ma position dans la diégèse des films. Ce sont des films de propagande. L'Empire, non, il y a eu un délitement assez douloureux avec des conflits internes, etc. quoi.
Non, mais alors, on va revenir. Merci beaucoup au capitaine Morin qui fait le travail que je devrais faire, c'est-à-dire de revenir recadrer le propos, à savoir la grande stratégie. Mais en fait, il faut dire quand même que justement cette disproportion, c'est un truc sur lequel on a commencé à toucher un peu, mais on n'y est pas vraiment allé. C'est cette idée de superpuissance contre résistance, etc. Ça donne une importance particulière à certaines dimensions, et notamment et peut-être en premier, c'est l'idée que l'Empire est toujours disproportionné. Les réponses de l'Empire sont toujours disproportionnées. Alors certes, il n'y a pas vraiment de loi internationale dans le cadre de Star Wars, enfin en tout cas pas qu'on sache, mais très clairement, l'Empire fait une stratégie de la terreur, c'est très clairement le cas dans l'épisode 4, où il s'agit de... où l'étoile noire détruit Alderaan, alors que Alderaan n'a pas fait grand-chose, globalement. Il n'y a pas de... Si on prend les analyses de conflits contemporaines, il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait une cause, bon, ça encore, on peut discuter, mais qu'il faut que ce soit une réponse proportionnée et qui cible pas trop les civils. Bon, là, c'est un peu foiré, on va le dire concrètement. Mais... du coup, voilà, précisément parce que c'est une résistance qui est très compliquée à les débusquer, comme le sont les guérillas, il faut faire des opérations spectaculaires, des opérations qui frappent les esprits, parce que, je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais c'est parce que c'est, voilà, il faut, je crois que c'est Wael, il faut frapper, il faut faire de la terreur, et il faut frapper les esprits de manière qui n'est pas totalement... sans rappeler Hiroshima et Nagasaki.
C'est clairement assumé.
Là, à nouveau, ça me permet de faire un parallèle avec la stratégie aérienne, mais dans notre univers à nous, dans l'univers de la stratégie aérienne, donc en particulier durant la période de l'entre-deux-guerres, on a eu plusieurs penseurs stratégiques qui se sont intéressés à cette nouvelle arme qui était donc l'arme aérienne. Parmi eux, on a eu un Italien, doué, qui a commencé à théoriser le bombardement stratégique. Et pour lui, enfin, une des modalités du bombardement stratégique, c'était, et c'est ce qu'un politologue américain, Robert Pape, a appelé la stratégie du punishment. Une des modalités que permettait l'arme aérienne, c'était de bombarder les populations civiles pour que ces dernières fassent pression sur leur gouvernement pour que ce gouvernement arrête les hostilités et négocie en faveur de la puissance qui l'avait agressée. Donc là, on retrouve un certain parallèle dans ce que fait l'Empire. L'Empire pratique cette stratégie du châtiment en visant délibérément les populations civiles. À la nuance près que, pour lui, cette stratégie de la terreur, ça semble être un peu une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à... Alors,
excepté pour lui, l'Empire, vous voulez dire ?
Oui, l'Empire pratique cette politique de la terreur, mais pour lui, c'est une fin en soi, cette politique de la terreur. Il ne cherche pas nécessairement à obtenir derrière un résultat politique... hormis dans le cadre de lorsqu'ils interrogent Leia dans l'épisode 4 pour essayer de lui faire dire où se trouve la base des rebelles. Et d'ailleurs, il y a un petit échange qui est assez intéressant entre Leia et le Moff Tarkin, où on s'aperçoit que les rebelles non plus n'ont pas trop l'air d'avoir une... de s'intéresser à la population civile. Puisque quand Tarkin dit à Leia, mais vous ne voulez pas que je cible cette planète, donc vous préférez quoi? Vous préférez que je cible un objectif militaire? Et là, Leia ne dit rien, ce qui est un peu étrange. En général, on préfère quand même que ce soit c'est quand même mieux que on cherche à éviter que ce soit la population civile qui soit délibérément ciblée.
Ouais.
Juste au dernier moment, elle plie quand même. Elle donne la base, oui. Ce qui n'empêche pas le grand Moff Tarkin de faire son œuvre.
Alors c'est amusant parce que je pense qu'on a les prismes de nos tropismes de recherche qui filtrent la manière dont on perçoit la chose. Mais moi, ça me fait penser à un débat en fait dans les stratégies de contre-insurrection où il y a cette grosse distinction entre la contre-insurrection où il s'agirait de gagner les cœurs et les esprits, mais il y a tout un courant qu'on a voulu un peu occulter dans les années 2000 parce que c'était pas très politiquement correct, mais un courant d'écrit historique sur la contre-insurrection qui explique qu'en gros ça peut marcher que si on est violent et coercitif et que si on fait quand même quelques exemples de temps en temps. Et clairement l'Empire tend à pencher vers le deuxième volet de massacre pour l'exemple, sauf que c'est à l'échelle d'une galaxie. Voilà, c'est une planète qui devient le massacre pour l'exemple. Le deuxième aspect, si on essaie de rattacher ça aux questions de stratégie théorique, il y a aussi une question, et une part de blessure narcissique en fait dans l'Empire. Et il y a une dimension de vengeance dans l'utilisation de la violence.
On va finir par psychanalyser au moins un ou deux dignitaires de l'Empire, c'est très bien.
Voilà,
comme ça.
Mais il y a une dimension de vengeance dans l'utilisation de la violence qui est assez intéressante et qui n'est pas du tout éloignée de comportements qu'on peut voir de manière historique où des acteurs dont la puissance est remise en cause par d'autres acteurs qu'ils estimaient inférieurs surréagir parce que justement ça remettait en cause leur propre statut et la perception de la puissance qu'ils avaient d'eux-mêmes. Donc il y a une question de correction de... Je me permets de citer une doctorante qui s'appelle Marie Robin, qui travaille sur les questions de vengeance, notamment dans les discours des djihadistes. Et il y a cette dimension de vengeance sur rétablir l'honneur, rétablir le statut, qui est, à mon avis, pas absente de la manière dont l'Empire utilise la violence.
Alors, moi, je vais faire référence à autre chose là-dessus, mais c'est qu'effectivement, ça rappelle quelque chose que vous avez déjà dit tout à l'heure, c'est la dimension de héros, mais au sens grec et au sens quasiment de l'Iliade, qui est quelque chose de très caractéristique de tout l'univers Star Wars. C'est le fait qu'il y a la piétaille, c'est-à-dire littéralement la piétaille, c'est les clones, et puis c'est l'ensemble des gens de la résistance qu'on voit une fois à l'écran, c'est qu'ils vont mourir très rapidement en général, notamment les pilotes de X-Wing, et à côté il y a les héros, et les héros philosophiquement, métaphysiquement même, c'est les Jedi et les Sith, parce que ce sont les hommes d'exception qui peuvent faire basculer une guerre en un coup de sabre, en un coup d'épée, de la même manière que Achille, Diomède, Ajax, Hector, etc. peuvent faire ça. Et c'est pour ça que les sabres laser sont pas inintéressants par ailleurs. Parce que les sabres laser, ça n'a peut-être pas d'utilité tactique et stratégique. Par contre, un sabre laser, c'est ce qui permet de faire un duel. Et faire un duel, c'est ce qui permet de faire basculer une guerre. Et c'est vrai dans l'Iliade. C'est vrai aussi et surtout dans Star Wars, parce que l'élimination en combat singulier peut faire basculer une guerre intergalactique. Ouais.
Alors juste pour rebondir, faire un petit pas de côté, c'est vrai, beaucoup d'univers de fiction et surtout dans un tropisme de la fantasy, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça, il y a Aragorn, Gimli, Legolas, et à côté, bah, il y a la masse, il y a la pétaille, comme vous disiez. Donc... oui, c'est totalement vrai dans Star Wars, mais je pense que c'est un trait qui est commun à beaucoup d'univers de fiction, ce qui est normal d'un point de vue narratif et du récit. Ça permet de s'identifier aussi.
Tony Morin ?
Oui, cette discussion-là me permet de rebondir sur la manière dont George Lucas a conçu l'univers Star Wars, et en particulier comment il a conçu le premier film, donc l'épisode 4. Il s'est beaucoup appuyé sur l'ouvrage d'un anthropologue américain qui s'appelle Joseph Campbell, qui a écrit quelque chose sur le monomythe. Et c'est-à-dire que pour Joseph Campbell, alors Joseph Campbell, c'est pas le seul à faire ça, à analyser la structure des récits héroïques. Il y a eu les formalistes russes avant lui, mais Joseph Campbell, lui, il propose le monomythe, c'est-à-dire qu'en compilant l'analyse, en compilant tout ce qu'il a pu relever de mythes anciens, de mythes religieux, de mythologie, etc., il en déduit une structure récurrente qu'il appelle le voyage du héros, où ce voyage du héros est en fait, où à chaque fois en fait, on nous raconte finalement, son postulat c'est de nous dire que finalement, peu importe le conte, peu importe le mythe, on nous raconte au fond la même histoire, et c'est ce que George Lucas a essayé d'appliquer avec son Star Wars, donc c'est pour ça qu'on a une surreprésentation des héros et une absence de la piétaille de la population. Ce qu'essaye de corriger en partie la post-logie, puisqu'on a un des héros, Finn, qui vient des Stormtroopers. On a dans l'épisode 8, l'épisode suivant, on a le personnage de Rose, qui est quelqu'un de base de la Résistance. Et enfin, je rebondis sur le...
Juste, ça, c'est aussi ce qui renvoie au roman de chevalerie, de manière très générale. C'est aussi la capacité du héros de chevalerie à sortir du peuple, mais à devenir chevalier. Alors généralement, sa mère est une fée ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est aussi la capacité que ce soit un parcours personnel, que ce soit un chemin personnel qui l'amène vers la noblesse par l'ensemble de ses valeurs, parce que généralement, parce qu'il a un cœur pur, ce qui est la correspondance médiévale absolument évidente du fait d'être du côté clair de la force et d'être dans le côté clair de la force.
Well. Pour rebondir sur le cas Finn, donc c'est cet ancien Stormtrooper du Premier Ordre qui fait défection et se voit naître une conscience et devient un héros. C'est assez intéressant dans ce que ça nous dit de l'univers. Donc en fait, il y a eu les clones d'abord pendant la prélogie, et ensuite il y a eu les Stormtroopers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous indique la manière dont l'Empire recrute et forme ses troupes. Ils les prennent très très jeunes, donc il y a une thématique d'enfance soldat. D'après ce qu'on comprend dans l'épisode 7, il les endoctrine de manière très violente. Finn est vu comme une anomalie par notamment son supérieur, la dame toute chromée, j'ai oublié son nom.
Captain Phasma.
Voilà, Phasma, voilà, merci. Je savais que c'était un nom d'insecte, mais j'avais oublié lequel. Il est traité comme une anomalie. Ce n'est pas possible d'après le conditionnement des Stormtroopers, d'après ce qu'ils pensent, comment ils sont formés. Théorie, il n'est pas censé avoir un libre arbitre, et ce qui renvoie pas mal à la thématique des drones de la Fédération du Commerce et des séparatistes de la prélogie, pardon, où le soldat est vu un petit peu comme un individu, un objet qui est dénué de conscience, de morale, d'individualité en fait, et c'est assez frappant.
Je rebondis, mais les Jedi les Jedi font ça aussi. Les Jedi aussi prennent leurs apprentis très très jeunes. Même Anakin dans l'épisode 1, qui est relativement jeune, hein, il doit avoir quelque chose comme 5 ou 6 ans.
9 ans plutôt. Ouais.
Bon, il est très très jeune et il est déjà considéré comme trop âgé.
Oui, et ce qui renvoie à la thématique générale des enfants soldats, c'est que c'est toujours un risque. Soit ça marche très bien, soit ça marche très mal.
De quel point de vue vous vous placez?
C'est justement pour la personne qui le recrute. Oui. Soit ça permet une adhésion totale, soit au contraire ça crée un rejet total, ce qui dans le cas d'Anakin n'est pas hors de pertinence, parce que son problème très clairement c'est l'endoctrinement des Jedi, et on voit et que le problème c'est qu'il nous fait sa crise d'ado, et que c'est sa crise d'ado entre autres, c'est le passage à l'âge adulte, avant le fait d'avoir des enfants, qui le fait passer du côté obscur de la force. Simplement pour dire que ce qui est très intéressant par ailleurs, et ça renvoie sur la grande grosse stratégie, un truc que j'aurais pu dire déjà tout à l'heure, parce que c'est un point qui est très intéressant, c'est la manière dont les clones sont représentés. En fait, l'épisode 3, c'est une bataille drone contre clone. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est la C'est ce qui est intéressant dans la manière dont les clones sont représentés, pour le coup, c'est que les clones, je trouve, mettent en avant un problème qu'on voit avec les drones, pour le coup. C'est que l'ordre 66, qu'est-ce que ça renvoie ? Ça renvoie qu'il y a un truc qui est programmé en eux, que les gens qui ont acheté le matos sont pas au courant. Et d'un coup, il y a une faiblesse dans le logiciel qui fait que le constructeur du logiciel, en tout cas celui qui a acheté en premier le logiciel, peut, enfin le logiciel en l'occurrence c'est les clones, peut jouer dessus et peut du coup renverser. Ce qui est exactement le problème contemporain avec les drones, avec la manière dont qui les construit, à qui les emploie, à qui est-ce qu'on les vend et qui a la main sur les systèmes internes des appareils. Parce que c'est bien toujours le problème, c'est que c'est la possibilité, l'éventualité qu'il y ait une backdoor et qu'il y ait un point d'accès pour la personne qui a construit l'équipement pour en fait l'employer contrairement à ce que de manière contraire à la personne qui est censée l'employer, qui l'a acheté.
Oui, je sais pas si l'univers étendu fait un peu de rétro-explication là-dessus, mais l'armée des clones, c'est, il me semble, c'est Yoda qui va l'acheter. Alors c'est pas lui qui commande la conception, ouais.
C'est lui qui reçoit la livraison.
Il reçoit la livraison. L'armée est commandée par un Jedi qu'on voit pas. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Maître Sifo-Dyas, voilà, dont on n'a strictement aucune information dans l'épisode 2.
Si, on sait déjà que c'est un peu louche, parce qu'il l'a commandé à un moment où il était déjà mort, probablement. C'est-à-dire, les cloneurs disent c'est Sifo-Dyas qui nous l'a commandé, mais Obi-Wan Kenobi tilt et dit, mais en fait, il était déjà mort. Donc bon, il y a un truc qu'on ne sait pas.
Mais c'est pas expliqué. Mais en tout cas, ce qu'on observe aussi dans l'univers Star Wars, c'est que c'est vraisemblablement assez facile de lever une armée. Il y a donc cette armée de clones qui est une armée complète achetée directement sur étagère par la République, puisque la République n'a pas d'armée permanente, vraisemblablement. Il y a cette Fédération du Commerce qui vraisemblablement semble nous indiquer qu'il n'y a pas de notion de monopole de l'usage légitime de la force dans l'univers de Star Wars, puisqu'on est face à un consortium privé qui dispose d'une armée, et ça ne semble pas gêner outre mesure le pouvoir politique. Ce qui se passe dans l'épisode 1, ce blocus de la planète Naboo par la Fédération du Commerce, dont j'ai toujours un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants, mais au final, c'est un petit peu comme si, suite à la taxe GAFA votée par la France, on aurait ces mêmes GAFA qui auraient organisé un blocus armé de la France et personne n'aurait rien trouvé à y redire. Donc ils ont un rapport à la notion d'usage de monopole légitime de la force un peu étrange. Toujours est-il que pour eux aussi, c'est très facile de lever une armée. Et c'est aussi très facile dans la post-logie, puisque tout d'un coup, dans l'épisode 9, on apprend que le Premier Ordre fait surgir une force, une flotte 10 000 fois supérieure à ce qu'il avait avant. 10 000, ça correspond vraiment à rien. Ça correspond à rien, 10 000. Ça aurait pu être, je sais pas, 2, 3 fois supérieur, 10 fois supérieur. Non, là, c'est 10 000, à tel point qu'on a donc un peu comme un décalque de la réunion qu'on voit dans l'épisode 4, où on a cette réunion des cadres du Premier Ordre, et où ce qui est vraisemblablement la DRH du Premier Ordre se pose la question du recrutement qu'il va falloir accélérer pour armer cette flotte 10 000 fois plus puissante.
Olivier Schmitt ?
En fait, je pense que ce que relève le capitaine Morin ici, c'est une relation à la question du secret dans l'univers de Star Wars. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension politique qui est en fait de la subversion, c'est l'intégralité de la prélogie, où il y a une manœuvre de subversion par un acteur hostile qui prend le contrôle d'une autorité politique. Donc ce qui
en
relève...
En l'occurrence, donc la Fédération du Commerce.
Et puis, enfin, surtout Darth Sidious, Palpatine, le sénateur qui devient chancelier Palpatine, et qui devient ensuite l'empereur Palpatine. Mais sur une manœuvre de long terme qui remonte dans l'univers étendu à ce que sont censés être les Sith, mais c'est globalement une manœuvre de subversion, hein, qui, relève d'une notion de secret. Et effectivement, il y a la deuxième notion de secret, c'est que globalement, étant donné la taille de l'univers, bah, il y a le contrôle de l'information et donc du coup le recueil de l'information se fait de manière très difficilement, malgré les technologies, malgré la facilité de déplacement. Donc la question du secret dans l'univers de Star Wars est révélée par les manœuvres des acteurs, mais aussi la structure même de l'univers.
Tout à fait, et ça c'est un point pour le coup vraiment de grande stratégie sur lequel on peut insister, et sur lequel je lis très peu de choses et j'ai pas vu grand chose, c'est sur la question du renseignement dans Star Wars, qui est une question tout à fait centrale, et une grande partie de la saga est vraiment axée sur la collecte d'informations, qu'il s'agisse de choper les plans de l'étoile noire, qu'il s'agisse de connaître les intentions ou les bases des rebelles de l'autre côté pour l'Empire. Et c'est très différencié, c'est là que c'est très intéressant, c'est que la résistance est généralement bien plus forte pour ça, alors que l'Empire a vraiment du mal à savoir ce qui se passe sur des territoires qui contrôlent mal. Well.
Oui, on peut noter que l'Empire a un usage assez extensif de drones pour la collecte de renseignements. C'est notamment grâce à ces drones qui détectent la base de Hoth sur la planète gelée.
Donc c'est au début de l'épisode 5.
Voilà, au début de l'épisode 5. Donc c'est pas complètement non plus des manches. Ils essayent de tendre des pièges. C'est le principe de la
C'est pas complètement des manches, mais c'est un peu des manches quand même. C'est-à-dire c'est étonnant d'en être, donc sur un territoire qui est nommément dans l'Empire, un être à envoyer des sondes robots et à avoir à ce point-là zéro contrôle sur l'autorité politique qu'il y a sur le territoire, pour qu'il n'y ait personne qui puisse prévenir. En tout cas, il faut constater que le renseignement humain, soit il n'existe pas du tout, soit il est franchement pas au point.
Alors sur Hoth, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autorité politique, en fait. C'est une planète désertique par essence, donc pas de renseignement humain, donc uniquement technique.
Si on veut parler de qui sont des manches en termes de renseignement humain, excusez-moi, mais les Jedi qui n'ont pas vu une manœuvre de subversion intégralement sous leur nez et qui a consisté à leur mettre dans les mains une armée qui était défectueuse et ensuite se faire exclure du pouvoir et massacrer, enfin, il me semble que là-dessus, la collecte du renseignement n'était pas idéale. Hein, mais...
Ah, je suis entièrement d'accord. Je vais pas défendre les Jedi, d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un va défendre les Jedi ici. Bon,
alors, je ne vais pas défendre les Jedi, mais... Une référence à une unité de renseignement, c'est les espions Botan qu'on évoque dans l'épisode 6, qui sont les espions qui sont censés révéler à la rébellion que l'empereur est en train de construire une seconde étoile noire, une seconde étoile de la mort. Manque de chance, là pour le coup c'est une manipulation, c'est une, a priori une belle opération de contre-espionnage de la part de l'Empire, puisque là l'objectif de l'empereur... C'est justement que la rébellion découvre cette étoile noire pour qu'elle amène sa flotte. Et là, c'est intéressant et ça rejoint... Ouais, c'est le fameux « It's a trap ». Et c'est intéressant parce que ça, on rebondit sur l'affrontement pluriséculaire ou plurimillénaire entre les Sith et les Jedi. Pourquoi l'empereur attire la flotte Jedi à côté de cette seconde étoile noire ? Pas nécessairement pour détruire, enfin, en partie, mais pas son objectif final, c'est pas la destruction de la flotte rebelle. Son objectif, c'est que Luke Skywalker voit la destruction de cette flotte rebelle pour que ça le mette en colère et qu'il passe du côté obscur.
Et il fait la même chose dans l'épisode 9 avec Rey.
Exactement.
Well. Pour rebondir sur ce point, ce qui est assez intéressant... Concernant la contre-insurrection et la manière de combattre une rébellion, c'est assez frappant de voir que l'Empire est toujours en quête d'une bataille décisive avec les rebelles. Ils veulent les attirer à un endroit où ils veulent les attraper à un endroit pour tous les écraser au même moment. Ce qui, alors je ne suis pas spécialiste, mais me semble assez contre-intuitif de quand on fait face à une rébellion, une contre-insurrection, de penser qu'on pourra s'en défaire de cette manière. Ça me semble assez...
Mais il y a aussi un aspect de la rébellion qui est toujours très concentré.
Oui,
pour le coup,
aussi.
Enfin,
pour le coup, oui, c'est vrai qu'ils ne sont, pas très malins.
La rébellion reste une organisation militaire, effectivement, très, oui. Assez hiérarchisée, vraisemblablement, et dont les moyens sont relativement concentrés. Et là aussi, on le voit sur Hoth. Regardez comment est organisée leur base sur Hoth. Hoth, ça a l'air d'être une planète relativement escarpée, difficile d'accès. Eh bien, les rebelles ont mis... leur base en un unique point, relativement facile d'accès d'ailleurs, puisqu'elle est, à côté d'une vaste plaine sur laquelle les quadripodes impériaux ont tout champ nécessaire pour manœuvrer. alors qu'ils auraient très bien pu disperser leurs installations pour justement éviter cette concentration et éviter d'être trop vulnérables à une attaque impériale.
Pareil dans l'épisode 8, où ils se réfugient dans une unique base où il y a une seule porte monumentale, certes, mais...
Alors, juste avant de terminer, je crois que Well voulait se lancer dans un plaidoyer passionné pour défendre les étoiles de la mort.
Plaidoyer passionné, je ne sais pas.
Tout le monde a compris que vous étiez du côté obscur, Well.
Non, moi, je ne suis qu'un... Je ne suis pas sensible à la force, juste au whisky. L'étoile de la mort, il y a souvent des parallèles avec une arme de destruction massive. Hiroshima, Nagasaki, on en a parlé tout à l'heure avec la planète martyre d'Alderaan, c'est évident. Mais à mon sens, et beaucoup de gens critiquent la pertinence de créer une étoile de la mort, et d'eux même, pour ensuite vouloir détruire la rébellion, l'Alliance Rebelle, en disant que c'est quand même assez absurde. Il y a toute une culture de la super-arme ensuite cultivée par le Premier Ordre. Et d'après cette analyse, oui, c'est assez absurde, mais si on considère...
Qui sont-ils pour critiquer Darth Vader,
c'est ça que vous voulez dire ? Non, mais si on considère que l'objectif premier de l'Empire n'est pas, dans l'épisode 4 tout du moins, avec la première étoile de la mort, n'est pas de détruire directement la rébellion en utilisant cette étoile de la mort, mais surtout de faire pression sur des planètes, voire des systèmes entiers potentiellement séparatistes, ou qui en tout cas financent ou laissent prospérer la rébellion en leur sein. Oui, c'est une arme de terreur, un outil un peu indirect pour saper tout soutien à l'Alliance Rebelle via la terreur en laissant peser une menace d'annihilation sur tout système potentiellement séditieux, ouvertement ou de manière un peu plus clandestine, parce que l'Alliance Rebelle a des moyens qui sont quand même assez considérables, on en a parlé, c'est une techno-guérilla qui a quand même des vaisseaux de combat de pointe, qui a jusqu'à des immenses vaisseaux médicaux, des croiseurs, etc., des corvettes. Ça demande de l'argent, ça demande des ressources, ça demande des chantiers navals, des chantiers stellaires. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, tout ça. Donc ils sont soutenus de manière assez massive par des systèmes entiers. Et donc l'objectif de l'Empire, c'est, qui me semble relativement rationnel, c'est plutôt qu'essayer de combattre une alliance rebelle qui, par définition, est insaisissable vu qu'il maîtrise une propulsion supraluminique qui est intraçable, en tout cas pour la première trilogie. Le mieux, c'est de leur couper tout soutien. Et pour ce faire, oui, ça a du sens de développer une arme ultime qui est capable de détruire des systèmes entiers. Et ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que justement, c'est tout l'intérêt de Rogue One, c'est de nous expliquer pourquoi il y avait ce défaut de conception, qu'il était placé là, pas par hasard. Et grâce à ce film, ça rend l'Empire un peu moins irrationnel. Même s'il y a le directeur Krennic dans Rogue One qui est complètement hystérique. J'aime bien d'ailleurs sa petite entrevue avec Dark Vador qui se passe particulièrement bien pour lui. Mais voilà, je pense pas que la première étoile de la mort, tout du moins, soit une aberration irrationnelle comme souvent expliqué.
Vous inquiétez pas, Well. Vous avez brillamment réhabilité la mémoire de Darth Sidious. C'est tout à votre honneur. Et ben, au terme de cet épisode fleuve qui reste, cela dit, dans une fourchette très basse par rapport à tous les podcasts qui ont été consacrés à Star Wars, parce que généralement ça se fait sur des semaines et des mois, on est resté très bas.
Non, je voulais continuer dans cette... puisqu'on était dans le renseignement, un des aspects du renseignement, c'est aussi la capacité parfois à mobiliser des supplétifs, et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel la rébellion a montré une certaine capacité lors de la bataille d'Endor.
Oh mon dieu.
Donc, lors de la bataille d'Endor, la rébellion doit mener une opération pour détruire le générateur de bouclier de l'étoile de la mort. Et de manière relativement fortuite, il tombe sur des locaux, les Ewoks. Et là, on observe qu'il y a quand même un fossé technologique extrêmement large dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que d'un côté, on a des engins comme l'étoile de la mort, et de l'autre côté, on a des Ewoks qui semblent, avec des pierres et des bâtons, qui n'ont pas découvert, qui semblent tout juste sortis de la préhistoire. Et pourtant, les rebelles vont parvenir à rallier ces Ewoks à leur côté, et ces Ewoks vont être décisifs dans la bataille finale contre l'Empire. Ewoks qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, je le rappelle, hein, les Ewoks, à ma connaissance, ce sont les seuls qui, au cours d'une seule action, parviennent à capturer l'ensemble des leaders clés de la rébellion, à savoir Han Solo, la princesse Leia et Luke Skywalker, ce que l'Empire n'avait jamais réussi à faire. Et les Ewoks parviennent à le faire à l'aide d'un moyen relativement rudimentaire. Mais on va voir durant cette bataille d'Endor que la connaissance et la maîtrise du terrain par les Ewoks va s'avérer absolument cruciale pour remporter la victoire face aux meilleures légions de l'Empire, hein, Dixit l'Empereur, et que donc cela va permettre à la rébellion de désactiver le bouclier, et donc in fine de gagner la guerre.
Je crois que Well a un parti pris très anti-Ewok, et a une haine irrationnelle des Ewok, peut-être une phobie même, allons jusque-là. Est-ce que vous voulez l'argumenter ?
Pas du tout. Non, mais après, bon, moi ma lecture c'est que justement, comme je le disais tout à l'heure, cette trilogie est une trilogie de propagande des vainqueurs. Donc, à ce titre, il est normal qu'ils aient déformé un petit peu la réalité pour donner à leurs alliés Ewok du moment, qui ont peut-être joué un petit rôle dans leur victoire, je ne le nie pas.
Vous croyez pas que les Ewok aient pu participer ?
Ce n'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai dit pas. J'ai de très bons amis Ewok. Mais ça tient peut-être au fait que quand j'étais plus jeune, j'ai eu une peluche d'Ewok qui me terrifiait quand j'étais petit. Mais plus sérieusement...
La ressemblance avec les Gremlins, il est vrai, frappant.
Oui, c'est vrai. Après, bon, Spielberg était à la manœuvre pour tout ça, donc il fallait bien faire du marketing et du merchandising. Mais non, c'est vrai que d'un point de vue... je suis d'accord avec le capitaine Morin, d'un point de vue... purement analyse stratégique et tactique. Oui, les Ewoks sont en tout point supérieurs aux Stormtroopers qui pêchent par un excès de confiance totale. Ça, c'est clair.
Et aussi. Par le fait qu'ils ne savent pas très bien viser aussi.
Aussi. Mais en même temps, avec le casque qu'ils ont, ça me semble assez normal.
C'est vrai. Olivier Schmitt ?
On peut d'ailleurs observer la plasticité idéologique de la rébellion, parce que finalement la manière dont ils arrivent à se libérer, c'est parce que les Ewoks reconnaissent en C-3PO quelque chose d'assez étrange et qui s'apparente à une espèce de dieu ou de leader ou ainsi de suite, et des gens qui censément se battent pour défendre la République, d'un seul coup n'ont aucun problème à instrumentaliser ce qui manifestement serait un système dictatorial autour d'un dieu-roi que les Ewoks reconnaissent. Donc on voit là la plasticité idéologique de la rébellion qui n'a aucun problème à instrumentaliser les croyances populaires.
Mais ces Ewoks, au-delà de leur apparence primitive, ils sont quand même relativement efficaces. Ils arrivent d'une part, dans un premier temps de la bataille, à se faufiler relativement proches et en grand nombre des troupes impériales. Ils maîtrisent des armes de siège, ce qui semble indiquer qu'ils connaissent, ils ont une certaine expérience de la pratique de la guerre. Ils maîtrisent également les opérations combinées, c'est-à-dire la coordination entre l'infanterie et une arme aérienne, un semblant d'arme aérienne, un deltaplane. Ils parviennent à utiliser de manière relativement efficace le terrain. Et quand on regarde de près cette bataille, eh bien, c'est par l'action de deux Ewoks et de Chewbacca que la situation se renverse complètement, puisque c'est au moment où deux Ewoks et Chewbacca, donc Chewbacca c'est le copilote de Han Solo, au moment où cette petite escouade parvient à prendre le contrôle d'un blindé de l'Empire, eh bien, c'est à partir de là que la décision se renverse complètement, et donc qu'in fine, la bataille et la guerre est gagnée.
Donc on en revient toujours aux héros qui sont capables de faire basculer le cours de la guerre. Il se trouve en l'occurrence que les héros qui font basculer à la fin de l'épisode 6 sont des Ewoks et Chewbacca qui ont un point commun. Je vous laisse tous deviner et faire le recoupement pour savoir lequel c'est. Merci à tous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. J'en profite pour vous souhaiter à nouveau à tous une très belle année, pour vous rappeler aussi la nouvelle déclinaison narrative du Collimateur, le Dans le Viseur, chaque vendredi à 8h, en partenariat avec l'École de Guerre. Et je vous redis aussi que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM, ou par mail aussi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, ce qui aide beaucoup à propager la bonne parole. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois. Et puis bon, évidemment, que la force soit avec vous.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.